Bonjour à tous, c'est Claude de Sornay. Et l'ultra-gauche, qu'est-ce qu'elle devient, l'ultra-gauche? Alliomariement, alliomariement, alliomari fait semblant. Alliomariement, alliomariement, allio nous prend pour des glands. Si vous avez une meilleure chute, n'hésitez pas. Et bonne année, Claude Barbier. Au revoir.
Voilà, je m'appelle Joseph et je suis directeur d'école en Aveyron. Je fais partie des 164 directeurs qui refusent de renseigner le fichier bas élèves. Vous savez, ce fichier qui centralise nationalement et sur Internet les informations sur les enfants des écoles primaires. Ben pour ça, nous subissons une retenue sur le salaire et ce 7 janvier, Jean-Yves, qui est directeur en Isère, sera lui convoqué à l'inspection académique car on le menace de le retirer de sa fonction de directeur, c'est-à-dire concrètement de le changer d'école. Pourquoi sommes-nous encore autant à persister dans notre refus d'appliquer ce fichage de nos élèves? Ben justement, parce que c'est un fichage. Et comme on donne un numéro à un enfant, à partir de ce moment-là, quand les élèves sont rentrés dans ce fichier bas élèves, ben, tout est possible, y compris le pire. Et il y a lieu de s'inquiéter de cela dans un monde où la vie privée des personnes est de plus en plus difficile à protéger. Et puis quand l'enfant sera fiché sur bas élèves, dès ses 3 ans, à partir de là, ses coordonnées seront centralisées dans la banque nationale de l'identifiant enfant, qui elles seront conservées, tenez-vous bien, 35 ans. Et ça, l'éducation nationale ne nous le dit pas. Non, bas élèves n'est pas un simple outil de gestion de statistiques, comme on veut le faire croire, à partir du moment où chaque élève et sa famille sont identifiés par un numéro. Comme mes 164 collègues, je suis rentré en objection de conscience car je ne peux renier des principes fondamentaux à mes yeux, le respect de l'enfance et le respect des familles. La multiplication des instruments de contrôle social est déjà très inquiétante, mais élargir ceci à l'enfance est proprement intolérable. Les enfants ne sont pas des citoyens et n'ont pas le statut juridique pour rendre des comptes à la collectivité. Préserver au monde de l'enfance à l'écart de la société des adultes me paraît fondamental. Nous serons donc plusieurs à lutter contre le fichier bas élèves en allant au bout de nos convictions et nous sommes prêts à nous voir retirer nos fonctions de directeur. Espérons que l'attitude répressive de l'État rencontrera des réactions chez les parents et les citoyens de France. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour l'année 2009.
Ah Daniel, c'est Madame Gorette, Alexandra Fan de Morbihan. C'est une très très grande fidèle auditrice de vous Daniel. Depuis 9 ans, je suis dans mon lit paralysée. Je voulais vous dire, Daniel, tous mes meilleurs voeux, de tout grand bonheur pour cette année, et puis plein de bonnes choses aussi. Daniel, et Christophe aussi. Et aussi, je voulais vous dire, Daniel, moi, je veux plus vivre, je veux mourir. Je souffre trop, et je n'arrive pas à la fin du mois, ni au milieu du mois, ni au début du mois. Non. Non, non, c'est terminé, je ne veux plus. 84 ans maintenant, j'ai fait toute ma vie, 5 vies magnifiques, sur cette terre, travailler dur, 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 élever tous mes frères et sœurs, élever une petite en nourrice, élever mes 3 enfants, mes nièces aussi qui étaient orphelines. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus de jambes, je suis paralysée. Depuis 9 ans, par une erreur médicale, à l'hôpital Soubert, à Vannes. Non, Daniel, je vous embrasse très fort. Encore merci, mille, de tout. Et encore tout, tout, tout plein de bonnes choses pour cette année. Au revoir, Daniel.
Bonjour et bonne année, le répondeur. J'ai entendu ce matin sur France Info que 2 journalistes, dont j'ai oublié le nom malheureusement, ont refusé la Légion d'honneur. Moi, à ces gens-là, je leur dis bravo. Et puis, il serait vachement intéressant de faire un reportage sur le sujet, car quand on voit des Lemergis, des Vartan, des Aveleloup, Durot et compagnie, qui accèdent à la Légion d'honneur, au nom de quoi, je ne sais pas, bah, ça pourrait être intéressant de voir un reportage, un beau reportage là-dessus. Voilà, je vous remercie. C'est Christelle de Messé. Et puis, bonne année à tous encore. Au revoir.
Bonjour à tous. Ce message pour annoncer que les AMG de Bayonne, Pays Basque, vont se réunir jeudi 8 à 20h30. Alors, comme les fois précédentes, c'est la 3e réunion. Ce sera au Trinquet Saint-André, dans le Petit Bayonne. À bientôt à tous.
À un endroit très sympa, le Trinquet, le Petit Trinquet à Bayonne. Salut à tous, chers AMG. On s'est battu pour pas devenir ce qu'on est devenu. On s'est battu pour pas devenir ce qu'on est devenu. Cynisme, désenchantement et surtout renoncement. Voilà ce qu'il y a dans cette phrase-là. On s'est battu pour pas devenir ce qu'on est devenu. Et renoncement, mais aussi reniement. Et là, reniement, les portes s'ouvrent, la lumière s'allume, on vous sourit, on vous fait signe, et vous vous voyez déjà dans la cour des grands. Ce que je vous dis là, ça résume une génération, la génération. Ils ont voulu faire la révolution, et voilà, le révolutionnaire est devenu notaire, le guérillero est devenu trader. On connaît ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Chaque génération a ses traîtres, ses opportunistes, ceux qui marchent sur la gueule des copains, qui leur font les poches un soir de cuite et qui ne les connaissent plus quand ils se font arrêter et à qui le commissaire dit « mais non, mais c'est pas de la délation, on vous demande simplement quelques renseignements, c'était votre ami, non ?» Alors on finit par croire que c'est toute la génération, comme si classer en termes de génération avait un sens. Et bien sûr que non. La plupart, la majorité vivent leur vie, continuent le combat. Pas trop héros, pas trop salauds. Et beaucoup de ceux qui se sont battus continuent, bon an, mal an. Mais au moins ils gardent leurs armes, leurs âmes, leurs larmes et leurs bagages. Et voilà pourquoi j'ai aimé le film de Pierre Carl et Éric Martin sur Choron, sur le professeur Choron. Ce film qui sort aujourd'hui même, Choron dernière, vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Et de Charlie Hebdo, mais vous vous dites, mais non, Charlie Hebdo n'est pas mort. Ça continue, c'est en vente. Pour certains, si, Charlie Hebdo est un peu mort. C'est un peu le sujet du film. Mais l'essentiel dans ce film, c'est Choron, c'est le professeur Bernier, tout à fait mort et assez oublié, suffisamment oublié pour qu'on ait envie de le ressusciter. D'ailleurs, un sondage avait indiqué que 85% des Français voulaient que le professeur Choron ressuscite. Voilà pourquoi nous allons passer cette heure ensemble avec Pierre Carl, l'auteur, le co-auteur du film avec Éric Martin, et aussi avec Willem, le dessinateur Willem que vous connaissez bien et que vous aimez, avec Delphine Dotton que vous connaissez bien et que vous aimez, que vous retrouvez chaque semaine dans Ciné Hebdo, qui n'est pas mort du tout celui-là. Et puis Arthur, plus discret, qui écrit de droite et de gauche, quand même, il faut bien l'avouer, plutôt de gauche que de droite, et qui fut une personnalité de cette époque-là, lui a fait un pionnier de l'écologie, un journal qui s'appelait La Gueule Ouverte, et qui est lié à cette histoire. Et alors, on va évoquer également un grand succès de librairie, vous l'avez sans doute eu dans vos petits souliers pour Noël, c'est bien possible, Harakiri, les belles images. Cet ouvrage qui vous montre les meilleurs moments des années Harakiri avec tout un tas de signatures et de photos et d'images et de BD et d'humour renversante. Bêtes et méchantes, donc une heure avec le professeur Choron, qui était un gentleman déguisé en salaud. Il a passé sa vie à rire avec talent d'une société de salauds déguisés en gentleman. C'est ainsi que parlait de lui Yann Kerninon. On écoute auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, et après, Zou Choron.
Oui, salut. Dis, c'est génial la dérégularisation du marché de l'énergie. J'appelle EDF pour changer mon disjoncteur qui marche plus. On me dit, ah bah oui, ça coûte 47 euros. Mais c'était gratuit avant. Oui, mais depuis qu'il y a des concurrents, on est obligé de faire payer pour pas faire entrave à la concurrence, pas faire de la concurrence déloyale. C'est bien. Dis, quand est-ce que tu nous fais une émission sur justement la dérégularisation des services publics dans tous les autres pays pour voir si finalement les consommateurs sont gagnants? que maintenant on va parler de consommateurs, hein, on va plus parler d'usagers, de services publics. Voilà, salut.
Bonjour Monsieur Mermet, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Moi je me pose la question de savoir qui finance le sauvetage en mer des marins en perdition qui sont sponsorisés par quand même de gros mécènes. Et je voudrais savoir si ce sont les sponsors qui financent les sauvetages ou est-ce que c'est le contribuable. Merci Monsieur Mermet et à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.
AMG du Pas-de-Calais, rendez-vous ce jeudi 7 décembre au repère de Monchy-Breton, chez Tartous et compagnie, à partir de 18h30. Meilleurs vœux à Daniel, son équipe, tous les auditeurs modestes et géniaux.
Ouais, salut à tous, des nouvelles du Sud-Est. Mercredi 7 à Grasse, entre 18 et 20 heures, organisé par le repère de là-bas, si j'y suis, la Cybermoutonne à côté du lycée de Grasse. Vous aurez l'opportunité d'évoquer le thème de la clérocratie. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est à l'époque où à Athènes, bon, avec tous les travers que ça avait parce qu'il y avait des esclaves, mais toujours est-il que les citoyens athéniens, il y avait un système de tirage au sort où au fur et à mesure, ben, les gens, ils gouvernaient et ils prenaient des décisions. Voilà un petit peu comme on fait ici pour les jurés. Vendredi 9 à Tourette, il y aura aussi le repère de la Bastille, j'y suis, à 19h au bar Le Latitude. Maintenant, vous souhaitez une bonne année à tous, passez une belle année à tous, et puis dites-vous que si on n'est pas plus riche cette année, c'est pas grave, quoi. L'important, c'est qu'on soit bien, quoi. Riche, on s'en fout. Bien. Ça leur met un doigt au cul. Ciao, vive, portez-vous bien.
Des dizaines d'hommes et de femmes.
On va retrouver Laurent sur les marches avec l'équipe de Charlie Hebdo qui monte les marches, Laurent.
Exactement, avec la présentation de ce film réalisé par Daniel Legonde qui s'appelle « C'est dur d'être aimé par des cons » avec le procès Philippe Val et Charlie Hebdo. Souvenez-vous la parution des caricatures de Mahomet. Philippe Val et Charlie Hebdo ont gagné leur procès. Eh bien, ils sont tous venus. Ils sont ici ce soir à Cannes présenter donc ce film en sélection officielle. Et ils sont tous venus accompagnés d'intellectuels. On a vu André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy.
Moi, je viens soutenir mon copain Philippe Val et mon copain Daniel Lecomte ce soir, parce qu'ils ont fait un film tout à fait extraordinaire, radicalement anti-intégriste, et en même temps, un film de pacification avec l'islam. Voilà, je suis un simple soldat dans l'armée, levé ce soir par Philippe Val.
Une montée des marches donc assez prestigieuse avec, vous le voyez, Philippe Val, et puis donc à ses côtés, des journalistes également de Libération.
Merci.
Et Daniel
Lecomte,
que vous voyez là.
Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter, s'il vous plaît?
Antoine Bast, journaliste indépendant. Une question pour Philippe Val. Philippe Val, est-ce qu'à l'époque d'Arakiri et du professeur Choron, pensez-vous que Charlie Hebdo aurait été célébré par le Festival de Cannes? Merci.
Je pense que, comme je n'étais pas à Charlie Hebdo du temps du professeur Choron, ce dont d'ailleurs je me réjouis, je ne peux pas vous répondre. Voilà.
Hello.
Voilà, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Pierre-Carl, Willem, Delphine de Thon et Arthur, professeur Choron.
Flight number 2, arriving from New York.
On va commencer par le film. Le film s'appelle Choron dernière de Pierre-Carl et Martin. La fin de Choron et la fin de Charlie Hebdo en même temps. C'est-à-dire que le film dit bien ce qu'il veut dire dès le sous-titre.
Il est sous-titré « Vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo ». Si on l'a intitulé ainsi, c'est parce qu'à un moment donné, dans le film, il y a une séquence qui est tournée au Festival de Cannes en mai 2008, où l'équipe de Charlie Hebdo, sauf Willem, sauf Ciné, l'équipe actuelle, monte les marches du Festival de Cannes pour présenter un film qui s'appelle « C'est dur d'être aimé par des cons ». Et ils le font avec un sérieux incroyable, sans aucune autodérision, en respectant totalement l'institution au Festival de Cannes. Et il nous a semblé avec Martin que c'était vraiment la fin du journal, parce que ce journal n'était pas là pour respecter les institutions, n'était pas là pour se prendre au sérieux, n'était pas là pour faire ce genre de choses. Notamment à l'époque où il était dirigé par Choron et Cavanna.
Alors, on a autour de cette table d'autres invités qui sont Delfeil de Ton, qui est un ancien d'Arakiri de Charlie et qui donne une chronique hebdomadaire à la fois maintenant au Nouvel Obs et à Ciné Hebdo, et qui est en train de feuilleter le livre qui est en train de faire un tabac sur Arakiri, qui reprend tous les dessins et toutes les images, l'imagerie de cette époque. Il y a Willem, que vous connaissez si vous lisez Libération, si vous... Et puis, toujours Charlie Hebdo, Willem.
Bien sûr, oui. Je suis là depuis 69, pourquoi je m'en irais ?
D'accord, très bien. Et puis Arthur, est un petit peu moins célèbre que les deux précédents. Arthur, c'était le créateur au 69, Arthur, c'est ça ?
72, avec Fournier.
72,
c'était Fournier le créateur, moi. J'étais.
Fournier, la gueule ouverte.
Voilà.
Et Arthur a continué une carrière de journaliste, un petit peu à droite, à gauche, enfin plus souvent à gauche qu'à droite, il faut bien dire.
Nettement plus à gauche qu'à droite, oui.
Voilà. Et toi, t'es impliqué dans quoi, dans cette affaire-là ?
Ah ben moi, j'ai vu le film de Karl, et Martin, et je l'ai trouvé magnifique. Oui. Donc je me suis dit, je vais témoigner qu'il faut aller voir ce film, parce qu'on voit le vrai Choron, notamment à la fin, quand on le voit... dans son village lorrain, là, c'était vraiment lui, quoi. C'est-à-dire, très éloigné de l'image qu'on a de lui, d'un type qui fout la merde partout. Pas du tout, c'était un type très humain. Il fallait aller le voir avant midi, parce qu'à midi, il avait un coup dans le nez. Mais quand on allait le voir de 9h à midi, on pouvait discuter avec lui. C'est lui qui a trouvé le titre, La Gueule Ouverte, le journal qui annonce la fin du monde.
Ah oui, c'est ça, le premier journal écolo.
C'était le premier avec Le Sauvage, qui était...
Qui était issu du Nouvel Obs, à l'époque.
Le Sauvage, c'était un peu l'écologie bobo, quoi. Un peu l'écologie.
Déjà, oui.
Alors que La Gueule Ouverte, c'était le terrain, quoi. C'était les...
Willem, ta première rencontre avec Choron ?
Aux années 60, quand je présentais mes dessins, c'était Choron et Cavenas, c'était vraiment deux frères jumeaux, hein, à l'époque. Et il fallait se faire payer par Choron, et c'était un sport.
Ouais. Comment il était ? On voit dans le film de Pierre Carl et Martin, là, comme espèce d'animateur aussi, hein, c'était un...
Oui.
Mais il faisait bosser les gens quand même, il était là, il filait des idées, il faisait travailler les gens. Il inspirait, il provoquait.
Il stimulait les gens, surtout.
Ouais, c'est ça.
Oui. Avec le dessinateur, il était toujours très bien. Avec le banquier, je ne sais pas.
Ah ben moi, je l'ai vu avec les banquiers, il était bien aussi. Hein. Il est roulé dans la farine.
Pierre, dans le film, on le voit, il rencontre vraiment un banquier. Il y a un plan. Il y a un gars qu'il rencontre dans la rue.
À Marseille, sur la Canebière, on était en train de filmer Choron et il y a un type qui l'interpelle. Et Choron, escroc, tu m'as pas payé sur Gros Dada. Gros Dada, c'était un journal pour enfants. C'était le premier journal pour enfants non mièvre qu'il a fait avec Charlie Schlingot, avec Villemin.
Ouais.
Et apparemment, il est pas
payé. Il montre dans le film que les animaux dessinés par Charlie Schlingot sont
sexués.
Sont
des burnes, pour dire les choses.
À la différence de tous les autres représentations des animaux dans les.
Chez Disney,
par exemple.
Le plus beau à Marseille, c'était quand il n'a pas payé la gravure, peut-être pas la totalité.
Oui, bonjour, je voudrais parler à monsieur.
C'était pourquoi, monsieur ?
Vous savez, je suis le professeur Choron.
Oui.
Et je fais un journal qui s'appelle Professeur Choron.
Oui.
Qui est en vente sur tout le territoire national.
Oui.
Si vous voulez, dans mon journal, je vous ai fait vraiment une pleine page de publicité.
Oui.
Et j'ai repris le couple, la personne d'un certain âge.
C'est le
avec
couple...
la grande fringue, là, vous savez, là.
Oui, celle qui fait de marié, certaines sont prêtes à tout pour avoir 1 000.
Voilà.
Oui.
Alors, moi, cette page-là que je vous ai faite, quoi, j'aurais bien voulu vous la vendre.
Oui.
Parce que, évidemment, mon journal me permet d'aller un peu plus loin que vous.
C'est-à-dire
que tout simplement, la personne âgée qui est à côté de la grande, belle mariée,
oui.
Je lui ai descendu le pantalon jusque sur les chevilles. Alors, il y a son sexe qui apparaît évidemment au-dessus de son petit gilet, mais il reste très chic.
Oui.
Vous voyez, c'est vraiment d'une très grande beauté. Ça respecte exactement ce que vous avez fait. Et alors, il y a la mariée qui dit « prête à tout, c'est beaucoup dire, je lui gratouille juste son bazar avec mon bouquet de fleurs, parce qu'elle a un bouquet de fleurs à la main. » Est-ce que vous pensez que ça peut séduire, monsieur...
Alors là, peut-être que monsieur... on va en rigoler, mais je sais pas si d'autres personnes vont rigoler en voyant ça.
Ah, mais enfin, je fais pas ça pour rigoler, moi.
Non, mais
c'est... Je fais ça pour gagner de l'argent.
C'est un gag ou pas, là?
Ah non, c'est pas un gag.
Vous rappelez une autre fois. Maintenant, vous me faites perdre mon temps.
Allô?
On est en train de parler de façon sympa, émue et bien sûr de Choron. Si Pierre Carles et Martin n'avaient pas fait le film, Choron serait dans l'oubli. Et il a vécu une longue parenthèse, ce Choron.
Disons qu'il a été un peu effacé de la photo de famille par l'équipe actuelle du journal Charlie Hebdo, notamment dans un recueil qui s'appelle « Les années Charlie », où la une, la plus connue de Charlie Hebdo, enfin de Rakiri Hebdo, « Balle tragique à Colombey », ne lui est pas créditée. Ce qui est quand même
Vous êtes tous d'accord que la couverture du siècle dans les médias français, c'est vrai en plus, hein, c'est la couverture, il en est l'auteur.
Ah ben, il en est l'auteur.
Vous en êtes tous témoins.
Ça, il n'y a aucun problème, il y a les témoins. Là.
Arthur.
Et dans les séances de couverture du lundi soir, souvent c'est lui qui trouvait des bulles. Les bulles, c'est un travail collectif, les dessinateurs. Mais souvent, oui, on améliorait les bulles. Oui. Enfin, lui, évidemment, avait des idées formidables. Oui,
c'est sûr que les couvertures, bien sûr, il y avait l'idée des dessinateurs, hein, mais souvent elles étaient réalisées par quelqu'un qui n'avait pas eu l'idée. Les 243 salopes, c'est évidemment une idée de Cavana. Bon, c'est Cabu qui l'a dessiné, parce que Cavana ne dessinait pas les couvertures, mais c'est évidemment de Cavana. D'ailleurs, dans le journal, le texte, les salopes, c'est Cavana qui en parle, quoi. Les couvertures les plus célèbres, finalement, elles ont été faites par Cavana et par Bernier, quoi. Et celle de Choron a vraiment changé l'histoire du journal.
Quand on entend Bernier, il faut comprendre Choron.
J'ai maigri de 5 kilos en 3 mois. Gandhi. Vous voyez ce que ça coûte? Ah, c'est choisi, ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, ah, ouais, enfin ça va, quoi. Qu'est-ce que tu veux, il faut, hein, je sais pas. Tant qu'on n'est pas mort, ça va, quoi. Quand on est mort, je sais pas, mais je sais pas, tu vois. J'ai peur d'avoir froid sous la terre. Je me dis, je vais me faire incinérer, j'ai peur que ça me brûle. Tu vois, alors, je sais pas, je me dis, je vais me faire jeter dans la mer, je sais pas, nager, tu vois, pour me faire bouffer comme ça par un requin et tout, oh, putain. Tu sais plus comment finir ta vie, quoi. Un bistrot. Voilà, commentaire sous la caisse du bistrot. Voilà. Allez.
Pierre Carles.
Moi, ce que je peux raconter, c'est que Martin, qui est co-réalisateur du film, qui est dessinateur, qui avait créé dans les années 90 un journal qui s'appelait Zoo, qui est le dernier rejeton, on va dire, d'Arakiri. Il y avait Villemain, il y avait Choron qui collaborait à Zoo, m'appelle un jour en me disant il faut pas que Choron est en train de crever, il est malade, il va mourir dans pas trop longtemps, il faut pas qu'on reste sur l'image de quelques apparitions à la télé ou passages par-ci par-là, un peu, parfois un peu pathétiques. Ça serait bien qu'on fasse un film sur lui pour lui redonner un peu d'épaisseur, de profondeur. Je ne sais pas si c'est le terme exact, il serait foutu de notre gueule si on avait dit ça à Choron. Hein. sûrement. Mais en tout cas, bon, essayer de redonner un peu d'ampleur, on va dire, au personnage. Et on est allé le filmer comme ça très rapidement. 7 jours, je crois, on a réussi à le filmer 7 jours. Il était malade, il se dopait pendant le tournage. Il changeait son sang parce qu'il a une maladie du sang, donc il allait se changer le sang. Il prenait de l'EPO. Et donc on le filmait dopé pour garder une trace de ce qu'il était lors de ce dernier tour de piste qu'il a fait avec nous devant la caméra dans les années 2003-2004. Il est mort en janvier 2005. Donc c'est Martin qui est surtout à l'origine de cette entreprise de sauvetage du soldat Choron.
C'est ça. Alors, en soldat, on le voit dans le film. Hein.
Ah oui, il a fait la guerre d'Indochine. Il a fait une guerre un peu spéciale. Hein. Je crois qu'il n'était pas armé. Il se baladait, il faisait de la randonnée, en fait. Hein. Il faisait de la randonnée en Indochine. Donc, il garde un très bon souvenir de la guerre.
Un parachutiste qui faisait de la randonnée en Indochine.
Il était démineur et radio. Il réparait les postes radio. Hein. Ouais, donc, ouais. C'était pas un boulot très militaire, on va dire.
Mais il y a une superbe archive dans le film où on le voit arriver en uniforme dans une émission de Chavannes. Et il est magnifique, il salue, et il est à côté d'un vrai militaire, qui est un type tout à fait sérieux et conscient.
Un officier supérieur. Hein,
un officier supérieur, et il explique, il vante les qualités de l'armée de métier, en disant qu'il faut quand même, c'est quand même mieux de se faire tuer par des professionnels que par des amateurs, et les professionnels font ça beaucoup mieux.
Prends
professeur Choron. Merci d'être avec nous, asseyez-vous. Essayez de ne pas déranger votre invité. Asseyez-vous.
Ça en surprend certainement certains, parce que professeur Choron, c'est plutôt la nard de service, etc. Mais il faut dire qu'il a été de longues années...
9 ans,
militaire, chez les parachutistes, et pas de la gnognotte, et qu'il s'est engagé lui-même, il a même fait l'Indochine.
Non mais, on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc ce soir, on parle de l'armée de métier. Vous êtes bien d'accord?
On va parler, entre autres, de l'armée
de
métier.
Si on parle de pain, on parle avec des boulangers.
Voilà, très bien. Donc ce soir...
La guerre doit être faite par des gens de métier.
Par des professionnels.
Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer est... connaît son métier.
On va peut-être pas attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Non,
c'est juste un truc, il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain. Christophe, l'avantage de l'armée de métier aussi, c'est qu'on n'a plus à s'emmerder avec des monuments aux morts, avec des cérémonies à la con.
Ah, du respect, attention.
C'est parce que... de l'armée de métier, je dis qu'à partir du moment où le gars, c'est son métier, d'aller mourir pour sa patrie, eh bien, quand il rêve, c'est comme si le boulanger tombe dans son pétrin ou le charcutier dans sa machine arrache la bidoche. Tu comprends?
Monsieur de Choron,
qu'est-ce que vous pensez de ce que...
Je ne pense rien de ce que dit Monsieur Choron. Je voudrais qu'on reste, si vous voulez, sur le débat, le vrai débat, et non pas que l'on fasse le procès des armées, que ce soit des armées d'Indochine ou d'Algérie.
Ça, c'est du grand Choron et du grand Harakiri aussi. Hein. Je crois que c'est vraiment l'essence même. Je vais dire peut-être une connerie, ils vont sûrement me reprendre, mais je pense que là, on est vraiment dans une influence qui vient depuis Rabelais et même de Swift. Et là, je pense que Choron, là, dans ce sketch chez De Chavannes, est vraiment dans cet esprit-là. On est dans l'outrance, on est dans la farce, et on pousse les choses jusqu'à leur logique extrême. Enfin, en tout cas, il est complètement scandalisé, le général qui est à côté de lui, et on le voit s'éloigner petit à petit pendant les propos de Choron. Mais c'est vraiment un des sketchs les plus antimilitaristes qu'on ait jamais vu à la télévision. Hein.
Alors, on va parler aussi du bouquin d'Elfeil est en train de se l'approprier, là, en même temps qu'on est en train de discuter. On n'en a qu'un pour deux, je ne sais pas ce que fait l'éditeur, mais bon...
il en vend tellement qu'il
a... c'est formidable, ça marche merveilleusement. C'est sur 25 ans d'Harakiri, les belles images, avec des textes de Stéphane Mazurier, Michel Le Bernier, la fille de Choron, d'Elfeil de Thon et Cavana. Effectivement, on retrouve toute cette époque, tous ces dessins, le mot provocation a l'air d'être faible. On a presque honte d'employer un mot aussi faiblard. Bon, aujourd'hui, ça semble monstrueux, ça semble une nostalgie. Mais en fait, c'était porté par toute une époque, d'Elfeil, non?
Porté, c'est beaucoup dire. C'était nous qui portions l'époque, un peu, quoi. C'est-à-dire que si c'est un reflet de l'époque, c'est parce qu'on était à l'avant-garde, en fin de compte, quoi. Les interdictions sont venues de ce que le journal avait toujours 10 ans d'avance, quoi. C'est ça, le truc. C'était pas la provocation, c'était du rire. Le but de Harakiri et de l'hebdo qu'on a fait après, c'était de faire rire. Et de faire rire qui? Nous. De nous faire rire, on était tous ensemble, et Willem nous faisait rire, et on faisait rire Willem. On se posait pas la question d'emmerder un tel ou un tel, et c'est pour ça que c'est encore drôle. C'est encore drôle parce que ça va au fond des choses, c'est pas de l'anecdotique. Si on fait de la politique, on s'en prend pas à un type qu'on va aller emmerder ou quoi, on va s'en prendre à l'institution, pas à l'occupant provisoire de l'institution. Alors du coup, ça bouge pas, quoi, c'est éternel, c'est valable tout le temps, quoi.
Ouais.
C'est de l'humour qui n'a aucune raison de vieillir.
Faire des enfants bêtes et méchants avec le sperme de Coluche...
Il y avait le sperme à l'intérieur. Hein.
Le vrai sperme du vrai Coluche.
Il y avait 200 litres pour l'ensemble.
Il n'y avait pas 200 litres, c'était un peu comme les parfums qu'on met dans...
Les échantillons.
Oui, il y avait un échantillon, quoi, mais quoi, ça suffisait pour faire un enfant, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de spermatozoïdes. Et alors le journal était dans un sous-blister, on dit, c'est le plastique, quoi. Ouais. Et dedans, il y avait un petit sachet, comme il y a le petit sachet pour le couscous picard, là, tu vois, avec les épices. Et là, il y avait une espèce de produit.
Coluche a beaucoup donné.
Oui. Mais je savais pas que c'était toi. on les a roulés, c'était pas du vrai sperme de Coluche, c'était du sperme d'étranger, en plus.
vous avez 15 ans, votre père vous emmerde, faites le foutre en prison, on dénonce, on peut dénoncer le père, enfin bon, on redécouvre. C'est le string, le maillot ficelle, c'est pas bien, ça coupe la merde en deux. Voilà, c'était, voilà. Alors évidemment, il y a des choses qui refroidissent un petit peu l'atmosphère aujourd'hui, quand on dit, oula, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, heureusement que c'est là-bas, si j'y suis. Où est-ce qu'on s'arrêtait?
On s'arrêtait pas. Il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Et justement, la force de Choron, c'est que Choron, contrairement à tous les rédacteurs en chef qui n'arrêtent pas d'arrêter leurs troupes, lui, il disait toujours, allez, faut foncer, les gars. C'est pas marrant, ça. Allez, vas-y, fonce. Ouais. Il m'arrivait avec des trucs, je lui dis, attention, là, quoi. Il me dit, t'occupe pas. Et c'était... Oui, quoi. C'était son côté animateur, son côté il faut y aller, c'est pas la peine de faire un journal si c'est pour s'emmerder, quoi.
Devant un tribunal, il a dit, on lui a dit, mais vous êtes bien le directeur du journal. Oui, parce qu'il faut un directeur, mais évidemment les gars font ce qu'ils veulent. Hein.
On faisait vraiment ce qu'on voulait, et il nous donnait pas d'ordre, mais il nous entraînait, il nous poussait à aller le plus loin possible. Quoi, la recherche des couvertures de l'hebdo, si ça durait 4-5 heures, c'est parce que... on était là, on discutait, et c'était toujours... On disait toujours, non, c'est pas bon. Alors les mecs, ils bûchaient, les réserves, les GB, et c'est qu'on sort. Et puis, jusqu'au moment où on trouvait une couverture forte, quoi. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on apportait les boissons. Hein. On ne buvait pas avant. Oui. Une fois que la couverture était trouvée, t'avais le gars qui refaisait son dessin, quoi, pour que ça soit une belle couverture, quoi. On ne se contentait pas d'agrandir le dessin, évidemment. Et donc, le gars faisait son dessin, puis là, on commençait à... Et on faisait rentrer les invités.
Les groupies.
On s'entend.
C'est la java de l'inceste illicite, celle qu'on danse avec sa nièce, la petite. On s'approche à petits pas, et on dit, suce tonton, c'est du nougat, garantie, sans sucre ni colorant, le zizi. Et ne fais pas tomber les dents des petits.
Pâques pour la jeunesse, la java de tous les vices.
C'est la java des bipèdes, zoophiles, qui aiment les palmipèdes, c'est facile. Par les ailes chope le canard,
coin, coin, coin.
Dans le croupion rentre leur dard,
soin, soin, soin.
Les petites pattes de la bête, en mesure, gigotent contre les roupettes, au luxure.
Ah que c'est bon la javisse, la java de tous les vices. Ah que c'est bon la javisse, la java de tous les vices.
Commercialement, ça marchait bien, c'était une affaire...
Il y a eu des hauts et des bas, mais ça a
C'était quoi
bien.
Les ventes? Vous
bord,
le saviez,
Pompidou,
Arthur?
Je crois que c'était 150 000.
Au moment de la mort de Pompidou, ouais, 150 000. Ouais. Ah, c'est
Harakiri,
pas mal, quand même.
Harakiri est monté à 250 000 oui. avant la deuxième interdiction.
Harakiri était monté à plus de 200 000, oui. Mais alors, on peut se demander, évidemment, pourquoi ça a crevé. Vas-y, Arthur. Non,
Arthur. Je pense que... On a involontairement mis Mitterrand au pouvoir, et puis le jour où il est arrivé, ben les gens ont dit, ben ça y est, maintenant la gauche.
Ah oui,
est
mais
là.
Je parle de l'hebdo. Oui,
non,
mais moi je parle de tous les journaux.
D'accord.
La réalité, c'est que Choron était un formidable entrepreneur, un formidable animateur, mais qu'il était un gestionnaire qui n'était pas formidable. Mais je veux dire, il n'y aurait pas eu les journaux s'il n'y avait pas eu cette folie de Choron, si Choron n'avait pas été imprudent. Il a fait un journal, ça a duré quand même là, 60-85, ça a quand même
25 ans.
Il a tenu ce journal pendant 25 ans, l'assiette au beurre, ça a duré 11 ans.
Hein, ah oui.
Ouais. Et il a fait ce journal pendant 25 ans, c'est un miracle. C'est un miracle parce que des Chorons, il n'y en a pas deux, quoi.
Est-ce que Harakiri était un journal de gauche, Delfeil?
Écoute, on faisait ce journal, et puis on a décidé de faire un hebdo, et on s'est aperçu qu'on était tous grosso modo de gauche. On ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'on était. Il se trouve que, comme la droite était au pouvoir, il y a toujours la connerie au pouvoir. Nous, on a eu la chance, si j'ose dire, que c'était la droite qui était au pouvoir, donc on s'en est pris à la connerie de droite. Mais si ça avait été la gauche, on s'en serait pris à celle de gauche. Hein, je crois. Hein, c'est...
Vilaine, tu crois que c'était un journal de gauche?
C'est comme Delfeil dit, parce que le pouvoir était de droite, donc on était contre tout le pouvoir en général, c'était plutôt anard. Hein.
Oui, c'était même pas le pouvoir, c'est le sentiment de puissance, c'est l'autorité. On était contre l'arbitraire, contre la bêtise, contre la méchanceté, contre les censeurs, les emmerdeurs, les empêcheurs de rigoler en rond, etc. Quoi. Bon, alors, on était contre...
Certainement pas marxiste-léniniste.
Non, sûrement pas.
Mais
Arthur.
Quand la gauche est arrivée au pouvoir, il n'a pas été épargné par Charlie Hebdo. Hein. Je me souviens, Mitterrand, il en a pris plein. Les ministres socialistes, il y avait une couverture, on voyait que des femmes nues, les barbus au pouvoir. Enfin, vous voyez, il y en avait photographié que le bas. Non, mais je veux dire, Mitterrand a pris la même chose que la droite, hein, quasiment.
Hello. La mode est à la charité. Vous n'êtes pas indifférent aux problèmes des plus malheureux et plus particulièrement de ceux qui ont faim dans le monde. On voudrait bien donner, mais on n'a pas toujours le temps de faire un colis avec carton, papier d'emballage, ficelle et tout ce que ça comporte. Il existe dans le commerce des petits colis tout prêts avec plein de choses à manger à l'intérieur et auxquelles on ne pense pas. Il s'agit des appétissants raviolis. Prenez un ravioli, collez sur une de ses faces un timbre-poste. Sur l'autre face, écrivez lisiblement l'adresse du malheureux affamé auquel vous le destinez. Il ne vous reste plus qu'à jeter le petit colis dans la boîte aux lettres. C'est vraiment le plaisir d'offrir sans que ça prenne trop de temps. Et qu'est-ce qu'on dit ?
Choron dernière, vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Le film de Pierre Karl et de Martin sort aujourd'hui en salle, ce 7 janvier 2009. On est avec les auteurs du film et on est aussi avec l'équipe de Harakiri. Le Harakiri, les belles images, ce bouquin qui retrace 25 années d'Harakiri. On est avec Pierre Karl, on est avec Willem, on est avec Arthur et Delphèle de Thon.
Et qu'est-ce qu'on dit ?
Pierre Karl, tu as fait des projections en amont, on sait comment tu procèdes. Et donc le film a déjà été vu par des spectateurs et des jeunes spécialement qui découvrent ce monde-là, qui découvrent.
Oui, eux sont très surpris les jeunes qui découvrent cette histoire, cette évocation d'Harakiri et du premier Charlie Hebdo à travers le portrait de Choron, parce qu'ils s'attendent pas d'abord à un tel degré de politiquement incorrect, un tel niveau de transgression et un tel niveau d'anticléricalisme à tous les sens du terme. C'est-à-dire que je crois que ce qui caractérisait Harakiri, Charlie Hebdo, première formule, c'était un journal d'un niveau d'anticonformisme et d'anticléricalisme, mais contre toutes les religions, y compris les curés de gauche. C'est ça, les gauchistes s'en sont pris plein la gueule. Dans
les églises gauchistes.
Toutes les églises. Toutes
oui,
les églises.
Tout ce qui est secte et... oui, voilà, c'est ça.
Bien sûr, tous ceux qui sont des moralisateurs, des donneurs de leçons, et c'est ça ce qui a changé.
Et les gens régimentés, quoi, de toutes sortes.
Exactement. Ouais. Il y a une magnifique phrase de Réserge, là, je la cite de mémoire, c'est « Les révolutions qui commencent en troupeau se finissent à l'abattoir ». Ça, c'est... Voilà. C'est magnifique, ça, quand même. Hein. Mais ce qui a changé par rapport au journal actuel, c'est qu'ils étaient dans un fonctionnement apparemment beaucoup plus collectif, je ne sais pas si on peut dire libertaire, mais en tout cas, il y avait quelque chose, même s'il y avait deux très fortes personnalités qui étaient Choron et Cavana, il y avait un fonctionnement beaucoup plus collectif, et aujourd'hui, il y a un fonctionnement très autoritaire. Et il y a quelqu'un, celui qui dirige le journal est un curé. Voilà, les anciens se seraient foutus de sa gueule. D'ailleurs, personne ne se fout de sa gueule aujourd'hui dans le journal de Philippe Val. Mais à l'époque, il aurait été raillé dans le journal. Quoi.
Il n'aurait même pas pu écrire dans le journal.
Il n'aurait pas pu écrire dans le journal. Attends, je vais juste te montrer un truc, oui. Daniel. C'est un dessin de Willem, de la femme de Choron, sa première femme qui est décédée. Là, il y a un dessin de Willem, je crois, qui vraiment représente parfaitement Choron. C'est vraiment l'aristocrate barbare. Tu vois, c'est l'aristocrate barbare, c'est une formule de Marc-Edouard Nabe, mais c'est vraiment... Willem l'a très bien croqué là, dans ce dessin.
Magnifique. Alors, bon, c'est difficile, évidemment, c'est un dessin à la radio.
Mais pourquoi pas ?
Il y a un Choron exultant, une coupe de champagne dans une main, son fameux fume-cigarette de l'autre, qui évidemment est cunu, enfin, bite à l'air, on va dire, avec une pauvre femme qui est en dessous, mais qui n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire, parce qu'elle est complètement... elle téléphone, elle répond à des quantités de téléphones, et on a compris que c'était elle qui faisait tout le boulot, mais rien d'autre avec cet oiseau. C'est ça à peu près.
C'est la femme de Choron, quoi.
Et c'est la femme.
C'est
la
fouille. Tout ça, c'était des blagues, quoi. C'était... Comment dire ?
Dans le film, on a retrouvé des sketchs qui avaient été faits avec une cassette VHS qui est sortie en 82 ou 83 avec Harakiri, vendue avec le journal, dans lequel il y a des sketchs d'une extrêmement mordants, et notamment un sur la pédophilie. Je ne sais pas si tu l'as vu, le film, dans le film. Là,
oui, bien sûr.
Le déguisement de petit vieux, ça, c'est des choses qui seraient impensables aujourd'hui. Déconner là-dessus.
Le nombre de choses impensables. Il y a,
C'est-à-dire que c'est de la protection de l'enfance. Ce sketch-là, c'est la protection de l'enfance. Les enfants qui vont à l'école sont détournés par des pédophiles, et donc Choron la protège les enfants en leur disant « Vous vous déguisez en petit vieux », il leur met un masque d'un truc de petit vieux, un petit vin, et voilà, et bonjour monsieur le petit vieux. Donc ça, il n'y a rien au contraire, c'est bien dans notre esprit, dans l'esprit de l'époque de protéger les enfants.
Sécuritaire, esprit sécuritaire.
Un esprit sécuritaire, non, là il est en avance.
Sois bien sage.
Oui, promis, maman.
Tu fais mal, petit?
Mon petit pain est tout écrasé.
Ah, ça n'a pas d'importance. Viens avec moi, je vais t'en offrir un autre.
Chaque jour, en France, des détournements de mineurs semblables à celui-ci se produisent. Chaque jour, d'ignobles individus font ces gestes répugnants, n'hésitant pas à souiller les purs regards de l'enfance afin d'assouvir leurs vices. N'y a-t-il rien à faire pour préserver ces innocentes victimes d'un traumatisme certain? Si. Le déguisement.
Et n'oublie pas ta canne, hein?
Oui, maman, promis. Bonjour, messieurs.
Bonjour, petit vieux.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, petit vieux.
Bonjour, monsieur.
Un petit vieux passe. Les pédophiles restent de glace.
Bonjour, monsieur.
La publicité pour Canigou, on voit une fille noire, très belle, qui est nue, qui marche à quatre pattes avec une jambe un peu en l'air, bon, etc. Mais quoi, elle est vraiment très belle, elle est montrée dans toute sa splendeur. Et puis, il y a Canigou, donnez du Canigou à votre chien, il deviendra comme ça.
on a l'impression d'avoir régressé quand même un peu, non? En voyant ça. Non,
je me souviens, il nous aidait aussi à faire les couvertures de La Gueule Ouverte, il venait, et alors il était en contradiction totale avec le lectorat. Par exemple, une fois, il avait montré une femme nue qui disait « Qu'est-ce que je fais dans ce journal ?» Et elle répondait « C'est parce que tu es biologiquement pure, et conne. » On avait perdu 10 000 abonnés sur...
Et pourtant, c'était des imbéciles, abonnés. Quoi. T'as bien fait de les perdre. Ouais.
Ah, mais je les ai gardés 10 ans. Quand
même. Magnifique dans ce film, bouleversant, c'est Cavana. Cavana qui tout d'un coup est pris d'une émotion formidable à l'évocation de Choron, qui évidemment évoque ce qu'est devenu le journal aujourd'hui, parce que c'est ça dont il faut parler, bien sûr. Et puis Cavana fait un peu ses adieux au Charlie Hebdo actuel, Pierre, Karl.
Oui, j'ai l'impression que Cavana est mal à l'aise aujourd'hui, parce qu'il s'est aperçu d'abord que le journal avait pris une direction qui n'était pas celle qu'il avait empruntée lorsqu'il l'a créé avec Choron. Et donc il est malheureux, Cavana, aujourd'hui dans ce journal, c'est évident, il est malheureux, oui. Et c'est triste pour lui de finir, alors que Ciné est redevenu un gamin de 20 balais en créant Ciné Hebdo, Cavana, il s'emmerde dans ce journal, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'y a plus ce côté... Le grand Charlie Hebdo et Harakiri ne calculaient pas. C'est un journal qui ne calculait pas, qui avait un panache que n'a plus le journal d'aujourd'hui, parce qu'il est...
Arthur, excuse-moi, c'était un couple complémentaire, Cavana et Choron, ils s'entendaient. Et moi, ce que je reproche le plus à voir, c'est d'avoir séparé cette équipe, parce que derrière Choron, il y avait Berroyer, il y avait Gouriot, il y avait Villemin, il y avait Caster, enfin bon...
Sylvie Caster, oui.
Donc tous ces gens-là ne se sont pas retrouvés dans le nouveau Charlie Hebdo.
Oui.
Et parce qu'ils n'étaient pas d'accord, simplement, avec le curé, quoi.
Mais Delphay...
Ce qu'il dit sur Cavana qui est triste, c'est vrai que Cavana est très triste, mais la sortie du livre « Harakiri et belles images », le succès... ça lui fait vraiment j'ai passé la journée d'hier avec lui, quoi. Ça lui fait un plaisir immense, quoi. Il est vraiment il est content parce qu'il a l'impression qu'il a pas travaillé pour rien, quoi. Il voit les nouvelles générations qui se ruent, parce qu'ils se ruent vraiment, quoi. On voit les piles à la Fnac qui descendent. La Fnac est en rupture de stock, quoi. Bon, au début Amazon a été en rupture de stock, quoi. C'est incroyable, bon. de voir le succès de ce livre à Akiri, alors là, c'est du pur Cavana, du pur Choron, quoi, et puis nous autres, mais quoi, bon, c'est vraiment le leur journal à tous les deux, et ça, ça lui fait vraiment plaisir, ça lui remonte un peu le moral, on peut le
mais,
dire.
Mais toi aussi ça t'a filé un coup de jeune, cette histoire de le conflit avec Ciné. Tout d'un coup, on a vu un Delfel qui est remonté en première ligne, écrivant, oui, dit, chroniquant, oui. chroniquant ma... Comment s'appelle ta chronique ?
Ma véritable histoire d'Arakiri.
Ouais, c'est ça.
Parce que il n'y a pas de véritable histoire, c'est la mienne, quoi. Mais elle est vraie, quoi. En tout cas, elle est vraie par rapport à ce que je pense.
Oui, mais ça redonne.
Je suis parti pour Ciné. Hein. Je suis pas parti contre quelqu'un. Je suis parti pour Ciné parce que Ciné, on voulait le tuer civilement, quoi. Le tuer professionnellement, c'était répugnant, quoi. Bon, et Ciné, c'est quand même un grand bonhomme. En plus, on veut le tuer sous l'accusation de racisme et d'antisémitisme, alors que s'il y a un gars qui a été le premier dessinateur depuis ça s'était pas fait, quoi, après la guerre, disons, parce que bien sûr il y avait le début du siècle avec l'assiette au beurre, on en parlait tout à l'heure, mais comment dire, c'est un gars qui a été tout seul comme dessinateur à faire de l'antiracisme et de lutter contre tous les racismes, et c'est bien Ciné, quoi. Et
bien
alors
sûr.
L'accabler là-dessous, quoi, c'était tellement répugnant, quoi, c'était alors là je suis parti, alors, et ça m'a peut-être donné un coup de jeune parce qu'on m'a dit, ah ben on retrouve le Delfeil, bah oui, bon.
Enfin, je me souviens, le Delfeil de l'époque qui nous envoyait voir des concerts de free jazz où on s'emmerdait pendant des heures par affection. Voilà.
Albert Heller.
Ouais, voilà. Voilà.
Elle alors est là, des génies. Arrêtez de chier sur les génies.
Tu vas pas nous renvoyer voir ça
quand... Si.
Ah non.
Je vais vous apporter les disques.
Ah non.
Ils sont tous morts.
En tous les cas, tu feras pas l'illustration musicale de cette émission. Ça, c'est clair.
Je retire ma culotte et retrousse ma cotte. Je monte sur le divan. Je me penche en avant. J'éteins les lumières. Souffle luminaire. Juste pour qu'il éclaire. Le voyage terre-lune coûte une fortune. Dans un vaisseau spatial, de plus on mange mal. Moi je suis la lune, ça coûte pas une thune. L'éclat d'un rayon sur mon écureuil.
Contempler ma lune, caresser ma lune, embrasser ma lune, farfouiller ma lune. Cosmonaute fébrile, fantasme fragile qui se brise en miettes si ma lune pète.
Même un pet de travers, ça fout tout par terre.
Je refoutrais plus que moi, Choron, et vous auriez reçu Gainsbourg, hein? Les mecs, j'ai fait mieux que Gainsbourg, moi j'ai fait le journal à Akiri. Gainsbourg n'a fait que des chansons, espèce de gros con, de merde, bande de merdeux. Moi, j'ai fait Akiri, j'ai fait Roland Topor, j'ai fait Coluche, j'ai fait tout ça. Ouais. Gainsbourg, on a fait que des chansons. Ah, hein, que c'est beau, la javanaise. Hein, que de la merde. Et je me fais virer par le patron. Et je vous jure que je foutrai plus les pieds dans cette baraque de merde. Voilà.
On revient à Choron. Dans le film, on voit, il y a le Choron chanteur, il y a le Choron musicien, auteur de poésie. Alors à un moment, il gueule dans le film, ouais, Gainsbourg, bon, il a fait que des chansons, tandis que moi j'ai fait un journal. Mais Choron a fait aussi de la chanson, et on voit différentes prises de son, c'était pas si mal que ça, hein.
Il était un peu bourré quand il disait ça. Hein. Quand il dit ça dans le film,
il est souvent.
Il a pris quelques verres à ce moment-là. Et il vendait la mouise dans un bar, je crois, hein, ce jour-là.
Oui, la mouise, c'est un de ses journaux.
La mouise, c'est son dernier journal. C'est le dernier journal qu'il a fait essentiellement avec Vuillemin. Vuillemin qui est vraiment... Schlingo aussi, oui. Également, oui. Vuillemin, Schlingo et le Fred Touron étaient les derniers dessinateurs, disons, les plus proches à la fin de sa vie, je crois, sans me tromper. Bon. Simplement, il a également fait des chansons. Il a fait l'Olympia. Je crois qu'il a fait 10 dates à l'Olympia. Tu dois avoir une cassette, toi, parce que...
C'est moi qui l'ai enregistré.
C'est toi qui l'as enregistré.
Présenté par Coluche, oui.
Tu étais à la première. Tu étais à l'enregistrement, enfin...
Non, c'est-à-dire que je suis venu... Bah, on est tous venus, quoi. Alors, le premier soir, moi, j'avais... C'était tout nouveau, ça allait de sortir, les petits magnétophones, tu sais, Sony, là, qui étaient grands comme un livre, quoi, tu vois, les magnétophones de poche. Alors, comme j'étais au deuxième rang, j'ai posé, puis j'ai enregistré, quoi, tu vois. Et ça a été l'enregistrement, quoi. Bon, Choron a trouvé que... Il n'en revenait pas que j'ai enregistré son truc, et c'est resté, que c'est un document qui est resté, mais c'était complètement amateur, quoi.
Il y a de très belles chansons, il y a de très beaux textes de Choron, je sais pas, par exemple la Java de tous les vices, le tango des affamés, l'hymne à la praline.
Caca chocolat.
Caca chocolat, qui est dans le film. Caca chocolat. Il y a 40 cm entre la bouche et l'anus. Donc, lorsqu'on enroule un patin, c'est aussi dans l'intestin. Je cite de mémoire il y a des choses très jolies comme ça. Enfin, très jolies, poétiques. et Choron, alors, je ne sais pas si c'était un grand interprète.
Si, aussi.
Voilà,
c'est-à-dire qu'il n'y a que. Il n'était pas professionnel. Bon, il n'avait jamais appris à chanter. Il connaissait pas la musique, bon, etc. Mais il chantait ses chansons comme il fallait les chanter, quoi. C'était extraordinaire, quoi. C'est unique, quoi. Mais ça prétend pas. Il prétend pas être un chanteur interprète. Il s'interprète lui-même, quoi.
Mais il n'y a pas eu des disques de ses chansons.
Bien sûr.
Oui, il a même fait une chanson avec Manu Chao, Les pages rouges du Botin. Figure en générique de fin de notre film.
Ah bah écoute,
musique,
alors là...
Manu Chao.
Sur ce qui s'est révélé être son lit de mort. Quand je suis allé le voir avec Berroyer à Necker, on l'a vu le samedi après-midi, et il est mort dans la nuit du dimanche au lundi, quoi. Et alors il était... Il avait des sondes partout, quoi. Bon, on voyait qu'il allait pas, mais il nous a chanté trois chansons, quoi. C'était devenu vraiment son mode d'expression, quoi. Je crois que c'est de ces chansons qu'il était le plus fier. Je pense que il avait l'impression que, c'est un tort, parce que il y a des idées dans le bouquin qui sont de Choron, qui sont fabuleuses, mais il avait l'impression que là, il le faisait tout seul, en fin de compte, quoi. Le reste, c'était plus ou moins en groupe. Il dépendait du photographe, etc. Bon. Tandis que la chanson, c'était lui. Il faisait paroles et il faisait l'air, il faisait la musique, quoi. Bon, évidemment, il y avait des gars qui retranscrivaient, quoi. Mais c'était lui qui imaginait l'air, quoi. Bon, et puis qui l'interprétait, quoi. Et puis il avait la prestance pour chanter, quoi. Il se tenait bien sur scène, hein. C'est avec son manteau, là. Et puis, alors, Bibi qui lui apportait le champagne, parce qu'à l'Olympia, il y avait Bibi qui était l'homme à tout faire du journal, la pariteur. Bon. Et il arrivait avec un plateau, et puis il y avait les coupes de champagne. Il apportait, entre chaque chanson, il présentait le plateau de
Et tout ça,
champagne.
C'était des idées à lui, quoi. C'est-à-dire que chaque moment de sa vie était une sorte d'œuvre de provocation,
C'était de l'art brut, comme on disait.
Ouais, c'est ça. Mais tous les moments de sa vie, c'était de l'art brut, quoi.
Ah oui, absolument, oui. Hein, mais je suis sûr qu'il serait très bien entendu avec du Buffet, quoi. Mais bon, ils ne se sont pas rencontrés, mais. hein, tu crois pas, hein, Vilaine?
Que lui, j'ai.
Du Buffet est un marchand de pinard, déjà. C'était une bonne carte de visite.
C'est vrai, tout à fait. Sauf que Dubuffet, les œuvres de Dubuffet finissent toutes à Wall Street, alors que Choron finit dans un film de Pierre Carle, quand même. Oui, c'est pas pareil.
C'est aussi prestigieux.
Oui, mais quand le livre Harakiri finit en tête des beaux livres dans les listes de livres hebdo. Tout ça est bien compliqué. Hein.
Mais attends, le film, ça va engendrer une nouvelle révolution. N'en doutons pas non plus, Arthur.
Et chaque livre sera offert à chaque spectateur du film.
Hein. Ça va coûter cher à
Webley. C'est l'éditeur qui...
Hello.
Voilà, merci à tous. Choron dernière, vie et mort du professeur Choron et de Charlie Hebdo. Ça sort aujourd'hui même dans les salles. Et c'est un film de Pierre Carles et Martin. Eh ben, renseignez-vous pour savoir si ça passe dans votre coin. Et puis le livre Harakiri, les belles images, c'est en vente partout. Merci à Delphine de Ton, Arthur Willem et Pierre Carles. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Un merci tout spécial à Patrice Serre qui nous a prêté des documents, qui a été longtemps un collaborateur de Choron. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent, Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde ont réalisé génialement cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Leboc, qui attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, qui est le 01 56 40 37 37. Et je vous rappelle que demain, jeudi à 20h30, au Théâtre de l'Union, 20 rue des Coopérateurs à Limoges, sera projeté Chomsky et compagnie. Et je serai là après la séance pour discuter avec vous. Réclame.